Les timbrés.
Les timbrés. Michel Soulier.
Association philatélique Montpellier-Rennes. Les timbrés, Michel Soulier.
Évoquer la poste ferroviaire, Michel Soulier, c'est s'intéresser aux marques ferroviaires. Alors, de quand datent les premiers et derniers cachets ferroviaires, Michel Soulier ?
Le premier que l'on connaisse, je parle du département de l'Hérault.
C'est vrai, nous intéressons exclusivement à l'Hérault.
Peut-être pas exclusivement.
Mais principalement alors.
Donc le premier dans l'Hérault date de 1854. Bon, il faut dire que c'est quand même un des premiers cachets français. Hein. Il n'y a pas beaucoup de cachets qui existent avant ça. Mmh. Et ils ont totalement disparu vers 1990. Mais ça ne veut pas dire qu'on en ait eu de grandes quantités, ça dépend des périodes.
Mmh. Alors vous allez nous expliquer pourquoi ça commence à cette date et que ça se termine en 1990.
Oui, alors je voudrais quand même, il faut profiter de l'actualité pour se raccrocher en philatélie. Nous fêtons aujourd'hui les 80 ans de la SNCF. Donc, effectivement, poste
quelle
ferroviaire, n'est-ce pas? Et il faut rappeler que, donc, créé en 1938, la SNCF a fait disparaître tout ce qui a fait la richesse ferroviaire de nos petites régions, puisqu'elle a regroupé l'ensemble de toutes ces compagnies ferroviaires qui, à partir justement de 1845, s'était multiplié en France et on avait ici en région, bien sûr, plusieurs compagnies. Donc, ça, c'est le ferroviaire, c'est-à-dire le train, etc., le transport. Et le lien avec la poste est très important. Donc, je vous ai dit, 1854, on voit déjà apparaître des cachets postaux. Ça veut dire que déjà, la poste a passé un deal avec les transports ferroviaires pour transporter son courrier. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, jusqu'à le développement du train, ben, le courrier il était transporté soit par des cavaliers, qu'on appelait des chevaucheurs, soit par les diligences, soit bien sûr par les malle-poste. C'était donc très aléatoire en termes de temps, de risque. C'était soumis aux intempéries. Bon. Et elle a tout de suite compris, la poste, que le train, ça représentait une régularité, une sécurité et une rapidité par rapport à ce qui existait avant. Et donc, dès les années 1850, elle a vraiment décidé et elle s'est structurée pour utiliser les chemins de fer pour les voies postales. Alors, bien sûr, ça s'est traduit par l'apparition de nouveaux métiers dans la poste. Ça s'est traduit donc également par l'apparition de nouveaux cachets. Au contraire de ce qui se passe actuellement, la poste du 19e siècle avait un souci de traçabilité. Depuis le moment où on mettait la lettre dans une boîte et jusqu'au moment où le destinataire la recevait. Et donc, elle a tracé ses actions sur les chemins de fer au travers de différents cachets. L'Hérault est extrêmement intéressant pour cet aspect-là. D'abord parce que c'est un département dans lequel, par exemple, dans les années 1870, il y avait 18 lignes locales, en plus des grandes lignes qui desservaient, bien sûr, Paris, Bordeaux, Marseille. Il y avait 18 lignes locales. Le département de l'Hérault était un des 5 premiers départements en termes de maillage ferroviaire locale, et donc on va trouver effectivement des traces de ça dans le courrier. Alors comment ça se passait? Ça se passait de la manière suivante. Un train, alors on va pour le moment laisser tomber les grandes lignes. Sur les lignes locales, Donc un train desservait un certain nombre de gares et de haltes sur son trajet. Et la poste avait installé dans les gares, notamment les haltes plus rarement, mais dans les gares, avait installé des boîtes à lettres qu'on appelle des boîtes mobiles. Pour la bonne raison, c'est que le personnel ferroviaire n'avait strictement pas le droit de toucher à ces boîtes et donc de relever le courrier, et seul un employé de la poste pouvait le faire. Et donc cet employé de la poste, en fait, il disposait dans le train d'un ou deux compartiments, et quand il y avait une gare qui arrivait, eh bien, il récupérait le courrier dans la boîte aux lettres. Et il acceptait également le courrier de la main à la main. Ces préposés de la poste, dans ces lignes locales, portent un nom, on les appelle des convoyeurs, parce qu'ils convoyaient la dépêche, ce qu'on appelle la dépêche, en fait c'est le sac postal dans lequel on mettait les dépêches, donc ils convoyaient les dépêches et donc ils ont porté le nom de convoyeurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il n'avait, lui, pas le droit au départ d'oblitérer les timbres. Seul un bureau en titre de la poste pouvait oblitérer les timbres. Mais par contre, il a posé sur les lettres son cachet de convoyeur. Et ce cachet de convoyeur, il comportait le nom de la gare dans la couronne extérieure, et au centre, dans le premier temps, il comportait une abréviation des deux terminus de la ligne. Donc on pouvait avoir par exemple BEMONT, c'était Béziers-Montpellier. Mais au retour, le convoyeur utilisait un cachet mon.b dans le sens où allait le train. Mmh. Alors, ça a été source de quelques, je dirais, erreurs. C'est sûr, on trouve des cachets erronés. L'autre aspect
pour le plaisir des collectionneurs.
Ah oui, oui, bien sûr. Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est que on ne sait pas vraiment si toutes les gares, toutes les haltes avaient une boîte postale. Par contre, en théorie, le convoyeur avait les couronnes avec tous les noms des gares et il devait changer la couronne entre chaque gare. Alors, ça a entraîné deux choses. C'est que, quelquefois, il oubliait de le faire. D'autres fois, il n'avait pas le temps matériel, quand les gares étaient rapprochées, de démonter ses cachets, de changer sa couronne et de mettre le nouveau. Et ça s'est traduit par la chose suivante, c'est qu'il y a un certain nombre de gares ou de haltes dans l'Hérault où on sait que le train s'arrêtait, mais on ne connaît pas les cachets de convoyeurs. Mmh. Alors, soit effectivement, il n'y en avait pas, soit on n'en a jamais trouvé. Parce que des petites haltes ou des petites gares, il n'y avait pas un trafic énorme. Il y en a peut-être à trouver encore. Récemment, d'ailleurs, j'ai trouvé un cachet de convoyeur qui n'était... On savait qu'il existait, mais on ne l'avait jamais vu. Donc, il y a de quoi faire. Ouais. Pour vous donner une idée, la totalité des cachets ferroviaires utilisés dans l'Hérault représente près de 500 cachets différents. Alors, on avait les convoyeurs. Ça, c'est une chose. Certaines gares avaient des boîtes mobiles ou des postes de ce qu'on appelait des postes de gare où se faisait le tri bien avant nos centres de tri modernes. Et on a là des cachets de gare. Or, dans l'Hérault, peu de gares ont eu des cachets. Hein, ça, c'est clair. Seules les grandes gares ont eu des cachets de gare. Dont une qui maintenant n'existe plus et qui ne viendrait pas à l'idée d'un héroté de dire que c'était un grand nœud ferroviaire, c'est Pouillan, hein, ou Poulan, comme disent certains, où il y avait une gare importante.
Jusque dans quelles années elle était là?
Elle a disparu en même temps que les lignes locales. Hein. Mais il y a eu des trains jusque dans les années, je pense, 60. Hein. De façon, dans l'Hérault, la plupart des lignes locales ont été démantelées après les années 60. Mmh. Hein. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça, c'est ce qui se passait sur les petites lignes. Sur les grandes lignes, et ça a été, à la limite, la première chose qu'a fait la Poste quand elle a décidé d'utiliser le système ferroviaire, elle a mis en service des wagons spéciaux, qu'on appelle des wagons de poste, qui voyageaient essentiellement la nuit, mais dans ces wagons, par contre, on pouvait faire le tri du courrier, on pouvait oblitérer les timbres, etc. C'était un véritable bureau ambulant. Et on appelle effectivement les cachets utilisés par les postiers dans ces wagons les ambulants. Alors, on n'en trouve pas sur les petites lignes. Les lignes locales dont je vous ai parlé, il n'y en a pas. Mais par contre, sur les grandes lignes, celles qui allaient par exemple de cette vers Paris ou de cette vers Bordeaux, etc. Là, on trouve des cachets ambulants. Et ça, ceux-là, par contre, ont duré jusqu'en gros 1990. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cachets de convoyeurs, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'était finalement très compliqué à utiliser. Il fallait changer les couronnes, il fallait changer les blocs centraux, etc. Si bien que, notamment dans l'Hérault, on les a utilisés à partir de 1870 et on a arrêté de les utiliser en 1876-1877.
Tout ça était assez court finalement.
Oui, et on les a remplacés par un cachet qui était utilisé sur tout le trajet du train, qu'on appelle un convoyeur de ligne. Donc ce n'était plus de gare à gare, mais c'était pour la totalité de la ligne. Alors, c'est vrai qu'en termes de traçabilité, c'est beaucoup moins précis. Mais par contre, ça permettait effectivement un travail beaucoup plus complet et on trouve beaucoup moins d'erreurs sur l'utilisation des cachets de convoyeurs de ligne que sur les cachets de convoyeurs
de gare,
de station. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé un peu dans l'Hérault. Il faut aussi rappeler une chose, c'est que l'Hérault a été un des premiers départements. L'Hérault a eu une des premières lignes de train en France. Hein? Et c'est pour ça qu'on a vu apparaître très tôt des cachets, hein, dont le cachet de 1854, qu'on considère être un précurseur, parce que sa configuration a différé des cachets qui ont suivi derrière. Hein? Et ça. Donc, ça s'est développé très rapidement. Et je vous dis, on arrive à avoir pas loin de 500 cachets sur les roues. Alors, tout cumulé, cachets de convoyeurs, cachets d'ambulants, convoyeurs de ligne, etc.
Tout ce qui englobe ces cachets ferroviaires.
Tout ce qui touchait à la poste sur le train.
Le train.
Voilà. Hein, ça, c'était un des points importants. Alors, il faut quand même rappeler que la construction des voies ferroviaires, y compris dans l'Hérault, est partie d'initiatives privées. C'était des compagnies privées. Et notamment, les deux plus connus, tout au moins pour les gens du Midi de la France, c'est le PLM, le Paris-Lyon Méditerranée, et puis la Compagnie du Midi. Bon, il faut rappeler quand même que le PLM a été créé par un ingénieur qui était de Nîmes et qui a d'abord créé des voies pour amener le charbon depuis la Grande Combe jusqu'au Rhône pour alimenter le port de Marseille, et ça s'est après étendu jusqu'à Montpellier puis jusqu'à Sète, et la première ligne voyageur vraiment qui est tournée régulièrement, c'est un Montpellier-Sète ou un Sète-Montpellier. Voilà. Et on trouve bien sûr des cachets qui rappellent absolument toutes ces étapes du développement ferroviaire. Alors, quelques mots encore sur ce qui s'est passé dans l'Hérault. Bon, il y a une ligne locale qui est tout au moins au cœur des Montpelliérains, sinon des Héraultais, et toujours emblématique, c'est celle de Montpellier-Palavas. Le petit train de Palavas, le train de Dubou. Le train de Dubou a eu effectivement un cachet de convoyeur de ligne, Montpellier-Palavas, qui n'est pas très facile à trouver.
J'imagine.
Parce que le trafic du courrier sur la ligne Montpellier-Palavas, les gens ils pensaient aller à la pêche aux crevettes plutôt que,
d'envoyer des lettres.
Donc, il est assez rare. Bon, c'est pas ici, mais on le trouve. Hein. Mais ça fait toujours plaisir à un Montpelliérain de trouver une lettre avec un convoyeur Montpellier-Palavas.
J'imagine.
Donc ça, c'est un peu, je dirais, l'anecdote. Un autre point qui est intéressant, j'ai répertorié dans l'Hérault l'existence de 141 gares et haltes. Il y a eu jusqu'à 141 gares et haltes dans le département de l'Hérault, ce qui est énorme. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que il n'en reste que 13. Et sur les 13, des gares où il y a encore du personnel, sinon c'est une halte, il en reste 3 et 3, 6, et il en reste que 7.
Ah là là.
Donc, on est passé
d'une situation d'abondance exceptionnelle à une situation un peu réductrice.
Voilà. Ouais. L'autre aspect qui est important, c'est que donc, la compagnie du Midi et la PLM, petit à petit, ont racheté les petites compagnies, etc. Mais il y a eu dans l'Hérault ce qu'on a appelé le train d'intérêt local, qui était géré par le département de l'Hérault. Bon, le département de l'Hérault, dans les années 60, s'est débarrassé de ces lignes, et il n'en a gardé qu'une, mais sous forme uniquement de transport de fret. Dans le sud du département, à Colombières. Cette ligne existe toujours, elle fonctionne toujours, elle est très courte, et actuellement, elle vient d'être reprise par la région Occitanie. Mais elle est toujours indépendante, par contre, du réseau
SNCF.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le ferroviaire
C'est déjà beaucoup, on a beaucoup d'informations.
Je pense que c'est quand même le département a eu cette chance et on verra tout à l'heure aussi quand on parlera de la poste rurale. Si c'est pas tout à l'heure, ce sera un autre jour. D'accord. Hein? Mais on verra que même dans la desserte rurale, le train a joué un rôle très important. C'est une pour les philatélistes, le département de l'Hérault en matière ferroviaire est une mine. Et comme je vous le disais au début, il y a encore des choses à trouver. Il y a des cachets qu'on ne connaît pas. Il est probable qu'on en trouvera encore dans les années qui viennent. Il y a aucune raison qu'on n'en trouve pas. Hein. C'est un des attraits de la philatélie, ça aussi. Mais fouillez dans vos vieilles lettres, vous risquez d'avoir des surprises.
Des surprises sur les cachets ferroviaires.
Voilà, et des surprises agréables.
Merci Michel Soulier. Au revoir.
Au revoir.
C'était Les Timbrés. Michel Soulier, Association philatélique montpelliéraine.